Bonjour. C'est un plaisir d'être là devant vous ce matin. On est dans la série sur Jacques, on prend l'épître de Jacques, et du coup on va continuer ce matin dans l'épître de Jacques. Et on a déjà vu un petit peu, et on continuera à le voir ce matin, et dans la suite évidemment, mais on voit que Jacques, il s'applique tout particulièrement à faire défiler notre nature humaine, ordinaire, et il la confronte à la parole, au caractère, au comportement qui découle de la foi. Il ne rentre pas dans une exposition aussi doctrinale que Paul le fait dans ses épîtres, notamment dans l'épître aux Romains, et il s'attache plutôt à rendre visible et vivant le trait d'union des effets de la nouvelle naissance dans la vie concrète, au travers d'exemples, d'illustrations. Et comme Jésus, avec force et autorité, l'avait fait éclater durant sa vie et par beaucoup de ses discours, Jacques réaffirme le lien, la relation intrinsèque entre la foi et la vie réelle, la vie concrète. En cela, il met l'homme qui a placé sa foi en Jésus face au défi de la vie régénérée. Et aussi, en cela, il renforce la qualité inestimable du sacrifice de Jésus, ce qu'on vient de célébrer par la Sainte Cène, ce dont on vient de se rappeler. Également aussi la présence du Consolateur, du Saint-Esprit, qui agit dans nos vies, comme Jean-Jacques vient de nous en parler. Alors le sujet de ce matin a tout à voir avec une relation biaisée. Pourquoi ? Par l'entremise de nos sens, de notre nature déchue telle que nous sommes, depuis la chute d'Adam et Ève. Alors si ce matin, par hasard, tu découvres que tu possèdes des sens, pourquoi pas, ce matin plutôt qu'un autre jour, et que manifestement, un examen superficiel, un mini-scan, comme Mathieu nous avait parlé la semaine dernière, suggère que peut-être nos sens ne sont pas toujours maîtrisés, ou pas toujours dans, ne font pas toujours gloire à Dieu, alors peut-être que ça vaut la peine, même certainement ça vaut la peine que tu tendes ton oreille ce matin. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien et que ma diction est acceptable. Je sais que ce n'est pas mon point fort, j'en conviens et je m'en excuse. Mais voilà, j'espère que ce matin, nous pourrons tous bien entendre et que ça pourra toucher nos cœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ça a été dit en introduction aussi, sur la série de Jacques, on voit que la vie de Jésus et que ses discours sont toujours en arrière-plan de cette épître, du propos de Jacques. Et les salutations du début de l'épître nous confirment aussi qu'il s'adressait à des chrétiens et à des chrétiens qui manifestement connaissaient la parole. Alors je vous prie de prendre avec moi Jacques au chapitre 2, les versets 1 à 13. Je vais lire dans la version Semeur. Jacques chapitre 2, versets 1 à 13. Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux portant une bague en or et entre dans votre assemblée, et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place !» Tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous, à terre, à mes pieds. » Ne faites-vous pas des différences parmi vous? Et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons? Écoutez, mes chers frères, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi, qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous méprisez le pauvre, pardon. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, mais la pitié triomphe du jugement. Alors je suis certain que, juste à l'issue de la lecture de la parole, de ce petit passage, vous avez une idée, peut-être même une